c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, beso de su boca yo me vi, amor de mis amores, reina mía que me...
Au sommaire de cette semaine, nous allons vous parler de l'Argentine, nous allons vous parler de la Colombie, du Venezuela, aussi un communiqué de Paris très intéressant. Nous allons parler encore de Venezuela, parce qu'il y a des choses qui se passent vis-à-vis des États-Unis pas très bonnes. Et à la fin, nous allons parler du folklore du Mexique. Je laisse la parole à Béatrice pour nous parler de l'Argentine.
Oui, concernant les élections du 26 octobre dernier. Des données des gagnants, des perdants et une forte abstention. Analyse de la victoire inattendue du gouvernement Milei. Une victoire inespérée d'autant plus qu'il était dans une situation difficile. Une défaite marquée du péronisme qui n'est plus une surprise et une abstention électorale au plus haut depuis 1983. Les élections du 26 octobre 2025 ont été source de surprises et ont donné du grain à moudre aux commentateurs. Personne ne s'attendait à une victoire du gouvernement Milei, comme personne ne s'attendait à la victoire écrasante du péronisme le 7 septembre dans la province de Buenos Aires. La crise de la représentation politique continue de remodeler le champ électoral où il n'y a plus de deux grands pôles, mais trois blocs distincts qui ne représentent pas la totalité des électeurs. Les abstentionnistes, un vote de centre-droit et de droite, et un vote péroniste, où ne prime pas la sympathie pour son propre camp, puisqu'il ne répond pas aux attentes placées dans leur gouvernement, mais qui est uni plutôt par le rejet de l'autre. Ce qui a augmenté, c'est le niveau d'abstention. 13 millions d'électeurs n'ont exprimé aucun choix. L'abstention politique a de multiples causes. Dans la tradition politique argentine, elle est l'expression d'un mécontentement politique lié à la conviction que rien ne changera. Maintenant que les élections sont terminées, ce qui va marquer le rythme politique, ce sont les problèmes structurels qui persistent, les attaques du gouvernement et la réponse de la rue.
Thank you.
folklore de l'Argentine. Et nous allons parler maintenant de la Colombie, de Venezuela et évidemment de l'émission.
Avec les États-Unis.
Les interventions avec les États-Unis sur ce continent. Oui. Béatrix ?
Oui, il y a des menaces et des actions militaires avec les États-Unis. Depuis le mois d'août, sous prétexte de lutte contre le narcotrafic, les États-Unis menacent le Venezuela, déployant 8 navires de guerre, un sous-marin à propulsion nucléaire et des milliers de marines dans la mer des Caraïbes. 7 navires ont été abattus en violation du droit international, faisant 32 morts, parmi lesquels un pêcheur colombien. Des attaques militaires états-uniennes ont également eu lieu dans l'océan Pacifique le 21 et 22 octobre, faisant 5 morts supplémentaires. Une nouvelle frappe contre un bateau de narcotrafic présumé dans les Caraïbes a tué 6 hommes. Divers médias ont révélé que Donald Trump est prêt à autoriser des opérations de la CIA sur le sol vénézuélien. Donald Trump accuse les présidents vénézuéliens et colombiens de participation au trafic de drogue. Le président colombien Gustavo Petro a affirmé que les États-Unis avaient violé l'espace maritime de son pays et tué un pêcheur au cours de leur déploiement militaire dans les Caraïbes, présenté comme une opération contre les narcotrafiquants. Des fonctionnaires du gouvernement états-unien ont commis un assassinat et violé la souveraineté de nos eaux territoriales, a fustigé le président Petro. Le pêcheur Alejandro Carranza n'avait aucun lien avec le trafic de drogue et son activité quotidienne était la pêche, a insisté le président colombien en référence à la victime. Bogota dénonce le déploiement états-unien dans les Caraïbes qui cible le Venezuela dont Trump accuse le président Nicolas Maduro d'être à la tête d'une vaste organisation de trafic de drogue vers les États-Unis.
Folklore de la Colombie. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de l'interférence états-unienne dans notre continent latino-américain. Il y a même un petit article dans le canal enchaîné qui nous dit « Trump, pirate des Caraïbes. 16 embarcations coulées et 65 morts au compteur en 2 mois au large des côtes colombiennes et vénézuéliennes. » Chaque fois, le scénario est le même. Donald Trump et son secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, se réjouissent que l'aviation des États-Unis ait fait un nouveau carton et il publie, à l'appui de leurs propos, sur les réseaux sociaux, des vidéos de vedettes rapides ciblées, puis pulvérisées par un missile, comme dans un jeu vidéo. Samedi 1er novembre, trois narcoterroristes de plus ont été assis dessoudés avant exègue, et donc le secrétaire de la guerre. Sa sommation, sans sommation ni vérification, justice sommaire comme dans le western, ou plutôt des exécutions extrajudiciaires selon l'ONU, avec des dégâts collatéraux. Gare aux pauvres pêcheurs navigant dans la zone. Trump se verrait-il un gendarme de deux Amériques, maniant les gourdins à l'instar de son prédécesseur Theodore Roosevelt? Toujours est-il qu'il intensifie sa guerre maritime sans nom et sans règles dans les eaux internationales. Les mots narcoterroristes, entre guillemets, forgés à dessein, octroient les permis de tuer à Trump qui assimile les trafiquants aux combattants illégaux d'Al-Qaïda. En plus de 8 navires de guerre déjà présents dans la zone, Trump a dépêché les plus gros porte-avions du monde et sa flotte de 100 destroyers au large de Trinité et Tobago, où sont déjà basés 10 chasseurs furtifs F-3. Après les opérations à haute mer, la Terre sera la prochaine étape à menacer les Trump. Mais il y a aussi confirmé avoir donné le feu vert à la CIA pour des opérations clandestines au Venezuela. Trump rêve à Nobel de la paix, mais il risque de ne pas faire mieux que Bush ou au Moyen-Orient ou Kennedy à Cuba lors du débarquement désastreux de la veille des cochons. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord. Et nous allons continuer à parler de ces problèmes entre les deux pays, surtout Venezuela et la Colombie, avec les États-Unis, n'est-ce pas, Béatrix?
Oui, c'est un communiqué de France-Amérique latine. non aux menaces de Donald Trump et aux actions militaires états-uniennes en mer de Caraïbes. À peine refermé le chapitre par lequel le président états-unien a tenté de se projeter comme faiseur de paix au Moyen-Orient, Donald Trump revient aux fondamentaux de l'interventionnisme musclé pour contrôler son arrière-cour. En effet, depuis le mois d'août, le déploiement de 7 navires de guerre, d'un sous-marin à propulsion nucléaire et des milliers de Marines dans la mer des Caraïbes place sous tension l'ensemble des Caraïbes. Sous des prétextes fallacieux de lutte contre le narcotrafic et aux violations du droit international, c'est d'abord le Venezuela qui est dans la ligne de mire. 6 embarcations ont été abattues sans la moindre preuve de leur supposée implication, causant la mort d'au moins 27 personnes. Mais les menaces de Trump ne se limitent pas au Venezuela. En octobre, un tir états-unien effectué dans les eaux territoriales de la Colombie a coûté la vie d'un pêcheur colombien. Après que le président Gustavo Petro a dénoncé cette agression, conséquence d'une violation manifeste de la souveraineté nationale, Donald Trump s'est déchaîné en accusant le président colombien d'encourager la production massive de drogue. Dans la foulée, il a annoncé la suspension de toute aide états-unienne à la Colombie, ajoutant même que les États-Unis pourraient bien utiliser la manière forte pour régler le problème du narcotrafic en Colombie. De fait, divers médias ont révélé que Donald Trump est prêt à poursuivre sa croisade impérialiste en autorisant des opérations secrètes de la CIA sur le sol vénézuélien. Ces ingérences s'apparentent à un terrorisme d'État pleinement assumé.
Oui, et d'autant plus que ça continue. Trump, il n'y a que des menaces partout, partout dans le monde, menaces sur le commerce, les taxes et les restes. Donc, petit à petit, il va se mettre presque la moitié des habitants des États-Unis contre lui. Et ça a commencé déjà avec le New York, qui a élu un candidat jeune, 34 ans, Mandani, je crois, tout jeune, socialiste, soi-disant, pas communiste, socialiste. Et dans d'autres, comment on appelle ça, district fédéral, je crois, il y a eu deux autres qui ont été élus de la démocrate. Donc ça commence la descente, j'espère bien, de Trump, et c'est pour cela que nous allons écouter de la musique. Vous êtes à l'écoute de l'émission L'autre Amérique, parce qu'il y a, il y a l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord. Et quand on parle de l'Amérique, on doit parler des États-Unis. Tout le monde parle de l'Amérique, mais moi aussi je suis américain. Vous le saviez, Warren? Mais oui, je suis américain aussi. Mais oui. Alors, nous allons continuer à parler de ces problèmes, n'est-ce pas, Béatrix ?
Oui, entre le Venezuela, la Colombie et le Panama. Comment Donald Trump veut refaire de l'Amérique latine l'arrière-cour des États-Unis ? Du Rio Bravo à la Terre de Feu, la politique étrangère états-unienne revêt les différentes formes d'un néo-impérialisme décomplexé. Hier comme aujourd'hui, ce sont bien les immenses ressources naturelles dont regorge la région qui intéressent avant tout l'administration états-unienne. Le retour au pouvoir de Donald Trump, faussement diplomate, a le mérite de lever toute ambiguïté sur la place et le rôle hégémonique que souhaitent avoir les États-Unis et comment ils comptent y parvenir. Adepte de la manière forte, Trump ose toutes les outrances au point d'obliger la presse à recourir à un vocable qu'elle avait laissé dans les oubliettes de l'histoire, impérialisme. Ce terme n'a jamais été abandonné en Amérique latine. Aujourd'hui, parler de retour de la doctrine Monroe est d'actualité, tant il semble évident que le slogan trumpien « Make America Great Again » sous-entend une soumission du reste de la planète. Au premier rang, le sous-continent subit de plein fouet le regain d'une politique étrangère ouvertement prédatrice. Le traditionnel interventionnisme des États-Unis prend diverses formes du Rio Bravo à la Terre de Feu. Après avoir échoué sur cet objectif lors de son premier mandat, Donald Trump semble cette fois si disposé à aller jusqu'au bout du rêve de Washington, porter un coup fatal à la révolution bolivarienne et reprendre la main sur les immenses ressources naturelles au Venezuela, première réserve mondiale du pétrole au monde. Trump ne cache pas sa volonté de provoquer le changement de régime tant souhaité. Tout semble prêt pour obtenir la chute du président Nicolas Maduro, dont la tête est mise à prix pour 50 millions de dollars.
Nous allons parler maintenant de quelque chose qui n'a rien à voir avec les problèmes avec les États-Unis, los corridos.
Oui, ce sont des chansons prohibées que le Mexique adore. Los corridos sont des ballades chantées au Mexique, fruit de la musique régionale mexicaine. Mais il en existe de toutes sortes, les classiques originaires du Nord et les belliqueux, batanguerres ou tumbado, qu'on appelle parfois narco. Leurs paroles racontent des histoires entre fiction et réalité. Dans le contexte de la violence qui sévit au Mexique, celles qui font des allusions au crime organisé dérangent. Elles sont accusées de romantiser la violence, la drogue et le narcotrafic. Ces chansons sont au cœur d'une controverse. Des autorités gouvernementales tentent de les interdire, alors que ce genre typiquement mexicain a de plus en plus de succès auprès du public. Les corridos, tumbados, marie l'instrumentation classique des corridos à des thèmes modernes, souvent centrés sur la jeunesse, fruit de la musique régionale mexicaine, empreinte de rap, hip-hop ou reggae, ton ou reggae. Il en existe de toutes sortes. À Guadalajara, le groupe de musique Los Alegres de Barranco affichait un portrait d'un baron de la drogue. Les images du concert ont scandalisé une partie du Mexique. Le gouverneur de Jalisco, Pablo Lemus, s'est tout de suite offusqué. Nous devons tous contribuer à mettre fin à la banalisation de la violence. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a aussi réagi lors d'une conférence de presse. Cela ne devrait pas arriver. Une enquête doit être menée. Pourtant, depuis des années, les chansons célébrant les chefs de cartel prennent une place de plus en plus grande au Mexique.
Oui. Bon, de toute façon, on parle de narcotrafic dans ces chansons. C'est un peu comme les rap en France. Hein. Avec les rap en France, on critique le gouvernement, on critique les étrangers, parfois les étrangers comme moi. Voilà, donc les corridos, c'est... Maintenant, on dit que le peuple adore, je ne pense pas. C'est pour cela que nous allons choisir une autre chanson mexicaine qui peut-être n'est pas un corrido, mais ne parle pas de narcotrafic.
Casi 14 años sin ir a mi tierra, a donde nací. Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios no se olviden de mí. Se murió mi madre y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir. Y yo sin poder ir, y yo sin poder ir. Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol. Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español. No han sentido miedo aquel que no ha visto una camioneta de migración o una deportación. O una deportación. De botitas y sombrero me miran seguido por el freeway. Jardinero, cocinero, igual me la rifo, dirán anyways. Y aunque me miren pa' abajo la cara,
voilà, avec des rythmes de corrido mexicain, notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou de redécouvrir des aspects de ce continent avec des corridos, des tangos, des salsa et d'autres musiques de ce continent. Merci à Béatrix qui nous a livré des infos latino-américaines contre les États-Unis. Merci à Antoine, à la technique. Acompañé de Warren. Muchas gracias, hasta pronto.
La vida no es fácil y menos acá, lo que dicen no es cierto. No más de acordarme las miles de cruces que viene el desierto. Las noches son tristes, pensando y pensando en los que se quedaron, se me pasa el tiempo. Ver a mi viejo, y en ver a mi viejo. Más que agradecido estoy con mi Dios por lo que me ha dado.